L'état des connaissances scientifiques est aujourd'hui le nôtre, permet de constater la présence de chlordécone dans le corps humain. Mais il ne permet pas de certifier que cette présence a un effet sur la santé humaine.
Dès 1979, le chlordécone figure sur la liste des cancérigènes potentiels.
Plus de 90% de la population adulte antillaise est contaminée au chlordécone.
En Martinique et en Guadeloupe, plus de 90% de la population est contaminée au chlordécone, ce pesticide introduit dans les années 70 pour lutter contre le charançon du bananier. Reconnu comme cancérigène probable pour l'homme par l'Organisation mondiale de la santé en 1979, il ne sera interdit aux Antilles françaises qu'en 1993. Or aujourd'hui, l'incidence de cancer de la prostate, notamment dans ces deux îles, est extrêmement haute. Pour autant, le président de la République déclarait au mois de décembre dernier qu'il ne fallait pas dire que le chlordécone était cancérigène et qu'il n'y avait pas de preuves scientifiques établies. Bonjour Luc Multinier.
Bonjour.
Vous êtes directeur de recherche INSERM, équipe évaluation des expositions et recherche épidémiologique sur l'environnement, la reproduction et le développement. Est-ce que le chlordécone est ou non cancérigène chez l'homme?
Clairement oui. L'aspect cancérigène du chlordécone a été mis en évidence au début des années 60 par les producteurs du chlordécone aux États-Unis. Ils ont dû faire un dossier qu'ils ont déposé aux autorités pour que ces dernières puissent accepter l'utilisation ou pas du chlordécone. Donc ces travaux déjà faits par les industriels en 1960-61 montraient clairement que chez l'animal de laboratoire, qui sont les tests toxicologiques habituels, le chlordécone avait la capacité d'induire des tumeurs du foie. Ensuite, en 1975, l'Institut national du cancer aux États-Unis fit une réévaluation détaillée, toujours chez l'animal, et conclut également que le chlordécone avait cette capacité de induire des cancers.
Sur le modèle animal, mais on sait bien que quand on regarde les essais et les études cliniques, il y a parfois des abysses, des écarts très importants entre le modèle murin et le modèle humain. Aujourd'hui, est-ce que la cancérogénicité chez l'homme est attestée pour le chlordécone?
Tout d'abord, il faut quand même préciser que fort heureusement, pour la plupart des substances qu'on considère de nos jours cancérigènes, nous n'avons pas d'évidence chez l'homme. On utilise les données animales pour se projeter. Et d'ailleurs, en 1979, le Centre international de la recherche sur le cancer,
le CIRC,
se prononça clairement là-dessus en disant oui, le chlordécone est cancérigène. Effectivement, nous n'avons pas de données chez l'homme. Néanmoins, à des fins pratiques, c'est-à-dire à toute fin utile, il faut considérer, et là je cite textuellement, le chlordécone comme étant potentiellement cancérigène pour l'homme.
Si on rentre effectivement dans le détail du CIRC, on sait que le CIRC évalue le danger et non le risque, c'est-à-dire
exact.
Le danger potentiel et pas le danger lié à l'utilisation et à l'exposition. Or, le chlordécone est classé sur la liste 2B, c'est-à-dire probablement cancérigène chez l'homme. On sait par exemple qu'un autre pesticide qui fait beaucoup débat, le glyphosate, est classé sur la liste 2A. On sait que par exemple la viande transformée est classée sur la liste 2A, la même que le glyphosate. Donc,
la charcuterie,
voilà, c'est ça.
Un.
Voilà, classée 1. Donc, quel crédit peut-on accorder à cette classification du CIRC sur le chlordécone alors qu'elle fait débat sur d'autres produits?
On peut lui accorder du crédit à une condition, c'est de tenir compte de la temporalité des évaluations. Je vous rappelle que sur le cas du glyphosate, cette évaluation du CIRC date d'il y a 2-3 ans, donc elle est très récente. C'est l'accumulation de données qui a fait qu'un certain groupe d'experts s'est prononcé, très bien. Or, celle du chlordécone, je vous le rappelle, date de 1979. Et depuis, excusez-moi de vous dire, mais de l'eau a coulé sous les ponts. Et pour répondre cette fois-ci à la question du risque, c'est-à-dire quelle est finalement la probabilité qu'une population étant exposée au chlordécone, eh bien, elle est une chance malheureuse d'avoir une survenue d'un cancer, eh bien, c'est la raison pour laquelle on a mené des études épidémiologiques aux Antilles, à partir de 2005-2007, avec des premières conclusions en 2010.
Et donc justement, à propos de ces études épidémiologiques, on a constaté une surincidence, notamment du cancer de la prostate aux Antilles. Quel est le lien que l'on peut établir scientifiquement aujourd'hui entre cette surincidence? Alors je parle sous votre contrôle de 227 cas pour 100 000. Est-ce qu'il y a un lien aujourd'hui qui est établi entre l'un et l'autre?
Alors il faut bien encore, j'insiste, de bien distinguer le sur-risque de la surincidence. Surincidence, c'est un chiffre global. Le cancer de la prostate, comme bien d'autres cancers, sont multifactoriels. Il y a une surincidence du cancer de la prostate aux Antilles, et ça c'est lié aux origines ethnogéographiques de la population. On sait que dans les populations d'origine africaine, il y a plus de certains cancers, moins d'autres. S'agissant cette fois-ci du risque, la nature des conclusions dont je vais vous parler aurait la même portée si la problématique du chlordécone avait eu lieu en Bretagne. Peu importe l'incidence. La question était de savoir, est-ce que dans la vie réelle, y a-t-il un lien ou pas entre cette exposition, donc des populations, et le risque d'avoir un cancer. On a mené ces travaux, financés par les autorités sanitaires, dans un cadre très précis, celui de faire face aux incertitudes, car on ne savait pas. Donc on se pose la question, ces travaux ont été réalisés, ils ont été publiés. Plus les gens étaient exposés, plus les hommes dans ce cas-là exposés au chlordécone, plus le risque était élevé de développer un cancer de la prostate.
Donc ça, c'est établi scientifiquement. Il y a une corrélation entre l'exposition au chlordécone et le risque de développer un cancer.
Il y a un lien, tout à fait. Bon, il faut bien savoir qu'en matière d'études épidémiologiques, on ne peut pas déterminer la preuve, la cause formelle et définitive. Voilà.
Parce qu'il y a trop de...
Il y a trop de choses. Je dirais que même un cancer du poumon chez un homme qui a fumé pendant toute sa vie, pour autant, chez cette personne, nous n'avons rarement ou jamais la preuve formelle que c'est bien le tabac. Car il y a des hommes qui fument et qui n'auront jamais de cancer du poumon, et il y a des hommes qui n'ont jamais fumé et qui vont avoir un cancer du poumon.
Pour autant, on peut établir
un lien très fort pour le tabac, comme d'ailleurs pour l'amiante. Mais le nombre de ces substances est extraordinairement réduit. Pour beaucoup d'autres, nous avons des éléments qui doivent se baser, bien sûr, sur des données scientifiques de qualité. Il peut y avoir, comme toujours dans la science, des opinions divergentes. Et à ce jour, il n'y a aucune donnée scientifique qui contredit les conclusions que nous avons apportées.
Ce que voulait dire Luc Multinier, c'est que finalement, le chlordécone n'est pas du tout comparable à la polémique qu'il y a aujourd'hui autour de la cancérogénicité du glyphosate.
Le dossier glyphosate,
On ne va pas rentrer dedans, mais je
vous apprendrai pas. C'est un sujet fortement controversé. Au moins, la controverse existe, y compris au niveau scientifique, institutionnel, etc. Pour X raisons, je ne rentre pas là-dedans.
Mais pour le chlordécone,
concernant le chlordécone, personne jusqu'à maintenant a émis une opinion ou des faits qui aillent contre ce fait-là. Le chlordécone est cancérigène.
Un dernier mot pour conclure, Luc Multinier, à propos de ce taux d'exposition de la population qui a été chiffré à 90% de la population contaminé au chlordécone, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire que 90% de la population des Antilles françaises est plus susceptible de développer des cancers? Est-ce que tout le monde est exposé à la même dose? Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce chiffre-là?
L'ensemble de la population est contaminé par le chlordécone, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il contamine les milieux naturels, les pleins de ressources alimentaires, etc.
C'est une molécule qui a par ailleurs une durée de vie très très élevée,
très longue. Très longue. Dans les sols, on estime à plus de 5 siècles le temps où elle mettra à disparaître être de façon spontanée. Ce n'est pas le fait tellement de que tout le monde soit contaminé. Ce qui est important, c'est l'intensité de la contamination. Et lorsque nous avons fait les premiers mesurages il y a 20 ans, nous avons observé un certain nombre de valeurs et les données les plus récentes montrent que les niveaux de contamination des populations diminuent fort heureusement. Et cela est la conséquence quand même de mesures de protection. Le seul et le vrai objectif en termes de santé publique, c'est que les autorités mettent en place tous les moyens nécessaires pour réduire l'exposition des populations. Bien sûr, étant de cela derrière tout ça, il y a des enjeux économiques très importants. Pourtant, ça a un coût, bien entendu, mais c'est la seule solution et c'est en tout cas vers quoi on doit tendre.
Merci beaucoup Luc Multinier. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche INSERM, équipe évaluation des expositions et recherches épidémiologiques sur l'environnement, la reproduction et le développement.
Merci.
Les idées claires par Nicolas Martin, à retrouver en réécoute, podcast et vidéo sur franceculture.fr.